Ce soir, je vais vous parler de la naissance de l'Église. Si on veut faire l'histoire de l'Église et si on veut s'attaquer au point chaud sur lequel elle est attaquée, on a vu la dernière fois qu'on pouvait l'attaquer sur l'historicité du Christ. Là, elle est aussi attaquée sur ses origines. Comme disait l'autre, au fond, l'Église... c'est une secte qui a réussi et rien d'autre. C'est-à-dire que ses détracteurs noircissent souvent le tableau de ses origines obscures, aléatoires, et simplement essayons de faire de l'histoire pour tirer les choses au clair et voir comment est né et s'est diffusé le christianisme, surtout dans l'Empire romain, il se diffuse ailleurs aussi, hein, mais c'est surtout resté dans l'Empire romain, au 1er et 2e siècle de notre ère. Voilà ce que nous allons faire ce soir, si vous le voulez bien.
Juste en préambule, il y a un film qui va sortir qui s'appelle Les Éblouis.
Oui.
Donc peut-être vous avez entendu parler.
Non.
Donc, c'est l'histoire d'une famille qui est très pratiquante, catholique, et qui se fait... Alors, je n'ai pas vu le film, donc je ne sais pas si c'est... on dit que c'est l'Église catholique qui est dédiée vers la secte, mais enfin, toujours est-il que... Ce couple-là se fait embringuer dans ce que les résumés appellent une secte. Et on voit le prêtre avec une croix, etc. etc.
Donc je sais pas on va voir en regardant le film si
ça va faire à l'église, mais,
ce qu'il faut en penser. Voilà. Moi, je vais vous dire ce qu'on peut dire d'un point de vue historique, tout simplement. Alors, on va, dans une première partie, s'intéresser à la naissance du christianisme, qui commence d'ailleurs sur un désastre. Quelque part, avec la mort de Jésus le vendredi 7 avril de l'an 30. Et pourtant, ceux qui l'ont presque tous abandonné affirment qu'il est ressuscité. Dans les Actes des Apôtres, nous lisons bien sûr l'épisode de la Pentecôte et le début de la prédication apostolique qui voit très rapidement les premiers baptêmes, les très nombreux par ailleurs. Alors, comment est né le christianisme au fond ? Alors, pour détailler un peu les choses, on va d'abord s'intéresser au judaïsme au 1er siècle, parce qu'il y a une matrice juive du christianisme. Alors, quelques petits rappels. Vous savez que les juifs sont revenus de l'exil perse en 356 avant Jésus-Christ, qu'il y a eu le phénomène de dispersion, de diaspora, en particulier autour du bassin méditerranéen, qu'il y a eu ensuite... une influence hellénistique qui s'est exercée sur les Juifs, hein, avec les successeurs d'Alexandre le Grand. Il y avait une lecture là-dessus, aujourd'hui, à la messe. Et puis, il y a eu la période de la conquête romaine, avec Pompée, en 65 avant Jésus-Christ, qui a fait un royaume vassal en Galilée et en Samarie, une province en Judée. Puis après, ça a évolué encore. Mais pourtant, malgré tous ces épisodes, toutes ces péripéties, l'organisation religieuse du judaïsme a subsisté, avec un dieu unique, non représentable, le temple, bien sûr, le lieu de la présence mystérieuse de Dieu au milieu de son peuple, dans le Saint des Saints, une caste sacerdotale avec un grand prêtre, des lévites, le Sanhédrin, la grande autorité, et puis il y a un judaïsme dans les villages, de Judée, de Galilée, et même plus loin. Alors là, on ne peut pas prier au temple, évidemment, il n'y a qu'un temple. Donc il y a des synagogues, des lieux où on lit la Torah. Il y a donc toute une diaspora qui a même perdu la compréhension de l'hébreu à un point tel que les Juifs eux-mêmes, au 3e siècle avant Jésus-Christ, ont traduit la Torah de l'hébreu en grec. C'est la fameuse traduction des Septante. À cette époque... Oui.
Ça, c'est juste après le retour des Juifs en Israël, après l'Exode.
Voilà, j'ai fait du 4e siècle au Christ, pour en faire un petit rappel. Et donc, à l'époque, notons aussi que ce judaïsme est prosélyte, c'est-à-dire qu'on peut se convertir au judaïsme beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Ce judaïsme n'est pas unifié, si vous voulez, dans la mesure où il est traversé par un certain nombre de courants, cinq courants principaux dont nous voyons que nous voyons en général d'ailleurs dans les évangiles et les actes des apôtres. Le premier courant qu'on peut mentionner, c'est celui des samaritains, qui qui, eux, un sanctuaire, non pas à Jérusalem, mais sur le mont Garizim. La rencontre de Jésus et de la Samaritaine a cela pour toile de fond. Nous avons aussi les Sadducéens, avec deux D hein, et un C, qui, eux, s'en tiennent à une explication littérale de la Bible, qui refusent la résurrection de la chair et qui s'accommodent pas trop mal de la domination romaine. Troisième groupe, le plus célèbre, entre guillemets, les pharisiens, c'est-à-dire les perushim, c'est-à-dire les séparés, ceux qui refusent l'occupation romaine, mais qui ne tombent pas dans la violence, qui sont particulièrement attachés aux observances rituelles et liturgiques, qui veulent éviter l'impureté, qui sont dans une tradition très approfondie d'observation de la loi, du repos du Shabbat, et donc avec lequel Jésus a énormément discuté de façon plus ou moins pacifique. Mais ce sont des juifs tout à fait pieux. Hein. Quatrième groupe qu'on peut mentionner, les Esséniens. Alors les Esséniens ont fait couler beaucoup d'encre, bien malgré eux, dans la deuxième partie du XXe siècle. Vous savez qu'en 1947, à Qumran, sur les bords de la mer Morte, dans une falaise, un jeune berger, recherchant une brebis, a découvert des grottes dans la falaise dans lesquelles on a retrouvé des jarres, dans lesquelles on a retrouvé des parchemins et donc toute une bibliothèque qui était la bibliothèque des Esséniens. Alors, il n'y a pas spécialement à fantasmer sur ce groupe, mais à l'étudier comme tout groupe religieux. Alors, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de juifs pieux, très critiques à l'égard des grands prêtres de Jérusalem, qui s'étaient retirés au désert et qui menaient une vie de prière et de travail que l'on connaît assez bien grâce à une partie des écrits retrouvés. Ils pratiquaient le partage des biens, ils prenaient des repas communautaires. Les textes montrent qu'ils avaient été fondés par un personnage qui n'est pas nommé, mais qui portait le titre de maître de justice et qui avait été tué tragiquement. Ils vivent dans la douleur de l'occupation romaine, ils vivent d'une attente messianique très prononcée, et ils attendent un messie perçu comme souffrant. Soit dit en passant, les textes bibliques qu'on a retrouvés dans la bibliothèque de Qumran, dans les manuscrits de Qumran, nous donnent des versions composées, enfin écrites il y a 2000 ans sur les parchemins, qui manifestent que les textes n'ont pas été trafiqués, si vous voulez. C'est quand même intéressant aussi à ce niveau-là. Cinquième groupe, les Zélotes. Eux espèrent un retour à l'indépendance d'Israël. Ils acceptent l'usage de la violence. Zélos, c'est le soin, la jalousie. Alors ils sont pieux, patriotes, parfois fanatiques, et le terme n'est pas trop fort, vous allez voir. Ils attendent un messie religieux et politique. Ils ont été fondés au début de notre ère par un personnage qui s'appelait Judas le Galiléen, puisque Judas est un prénom répandu, il n'y a pas que l'apôtre. Hein. Et il avait organisé une révolte en Judée qui a été écrasée par les Romains. Et ces zélotes vivent dans la clandestinité, vont jusqu'à commettre des assassinats. Et ils cherchent à entraîner tous les juifs dans une révolte générale contre les Romains, ce qu'ils parviendront à faire en 66, avec le début de la grande révolte juive. On sait qu'au moins un apôtre fait partie de ce courant, Simon le Zélote. On se demande s'il n'y en a pas d'autres. Par exemple, Judas Iscariote. Hein, Iscariote, une des étymologies proposées, c'est le sicaire. Un sicaire, c'est quelqu'un qui est armé d'un couteau. Et en général, c'est avec le dessein de se battre. Donc, si on regarde ces courants, qui résument pas forcément tout le judaïsme par ailleurs, hein, mais on a remarqué cela, ils sont tous traversés, de près ou de loin, mais plutôt de près, par une attente messianique, avec un messie qui a quatre caractéristiques principales. Il est roi, prêtre, prophète, fils de l'homme, avec la, vous savez le sens de ce terme, puisque dans la vision du prophète dans l'Ancien Testament, on a plutôt derrière cette expression l'idée d'un personnage divin, en fait. Et c'est évidemment une expression que Jésus reprend pour se désigner lui-même. Et un Messie qui est à la fois royal et souffrant. Voilà le cadre un peu planté, si vous voulez. Cette attente messianique, ce judaïsme avec ses différents courants. Alors, ouvrons les Actes des Apôtres, puisque c'est notre source principale. Et regardons la première communauté qui se reconstituait avec la résurrection, l'annonce de la résurrection, qui se retire au Cénacle et qui connaît l'épisode fameux de la Pentecôte. Je ne vais pas le raconter, mais à partir de la Pentecôte, les apôtres sortent annoncer la bonne nouvelle aux Juifs présents à Jérusalem, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus qui a vaincu la mort. Et cette prédication, elle vient frapper le cœur de tous ceux qui écoutent, enfin d'un certain nombre en tout cas, eux qui attendaient le Messie. Et donc cette prédication connaît un réel succès et on va voir se constituer une première communauté, une première ecclésia, une première assemblée. Les premiers chrétiens, on ne les appelle pas encore comme ça, hein, on va les appeler comme ça un peu plus tard, pris dans le temple, et on sait qu'ils célèbrent le soir suivant le Shabbat une liturgie comportant des lectures, des prières, des chants et une célébration de l'Eucharistie. Hein. Ils font ce que Jésus leur a demandé de faire. Hein. Faites ceci en mémoire de moi.
Vous dites dans le temple.
Dans le temple. Au temple. Alors, l'Eucharistie n'est pas dans le temple, mais ils prient dans le temple, par ailleurs, habituellement. Oui. Alors, il y a décrite dans les Actes des Apôtres une communion fraternelle, la pratique de la communauté des biens, des épisodes tout à fait pittoresques. Vous pouvez lire l'histoire de Saphir et Anani, vous savez. Hein, ils mettent tous leurs biens au pied des apôtres, mais ils en gardent une partie pour faire des courses au moment des soldes. Hein, et puis, ils ne rentrent pas en même temps. Et ça se passe très mal pour eux. Alors, bon, je laisse les prédicateurs commenter l'épisode, mais il est terrible. En tout cas, Jérusalem est vraiment le lieu idéal pour l'évangélisation. Parce que tous les pèlerins de la diaspora y affluent en pèlerinage. Donc tout le monde y va, tout le monde y passe. Et donc c'est le meilleur endroit pour annoncer à tous les juifs de la diaspora que le Messie est venu. Alors, très vite, ça va se compliquer. Je vais maintenant parler du martyre d'Étienne. On a, par ce biais donc, de plus en plus de personnes qui demandent le baptême. Et on voit la communauté chrétienne commencer à essaimer chez les juifs de Palestine qui étaient venus en pèlerinage. Ils sont montés juifs, ils redescendent chrétiens, si vous voulez. Et ça va provoquer l'ire du Sanhédrin. Notons que parmi ces premiers chrétiens, il y a des juifs qui parlent grec. Et donc c'est eux qu'on va appeler les hellénistes dans les Actes des Apôtres. Et c'est ce groupe-là qui réclame la nomination de responsable du soin des pauvres et qui vont conduire à la désignation des 7 diacres, dont Étienne. Étienne, qui, comme vous le savez, est lapidé, tandis que Saul garde les manteaux des lapidateurs. Étienne est le premier martyr, c'est-à-dire le premier témoin de l'amour du Christ jusqu'au don de sa vie pour lui, avec une mort qui est, un père ne leur compte pas ce péché, qui est vraiment une reproduction de certaines des paroles de Jésus sur la croix.
Et on peut situer à peu près la période par rapport à la mort de Jésus
Vers 36-37.
Donc environ 3 ans après.
Oui. Alors, les hellénistes doivent quitter la ville. Donc ça se passe vers 36-37. La communauté de Jérusalem qui reste est persécutée. Elle est dirigée par Jacques, frère de Jean, qui est décapité. Tout ça, c'est dans les Actes. Puis Pierre est arrêté en 44, il s'évade. Et vous voyez qu'il y a un phénomène paradoxal, c'est que ne pouvant plus rester à Jérusalem, eh bien, certains des premiers chrétiens, certains apôtres, vont devenir missionnaires, mais en dehors, plus loin. L'autre Jacques, celui qu'on surnomme le frère du Seigneur, dirige la communauté qui subsiste à Jérusalem. Autour de lui, il y a des presbytres, des anciens, Jacques prenant quant à lui des allures de surveillant, épiscope. Donc on voit très anciennement la structure qui correspond à la structure évêque, prêtre et on a vu diacre. Alors, je le dis juste en passant, les mots sont là, après les théologiens commentent. Alors, où sont allés ceux qui ne peuvent plus rester à Jérusalem ? Eh bien, ils sont allés dans les villes peuplées de Grecs païens sur la côte. Il y a là des hellénistes, il y a Pierre, et un certain nombre de compagnons. Et donc, on voit bien que culturellement, linguistiquement aussi, il y a des chrétiens d'origine juive qui parlent araméen, si vous voulez, ou grec. Il y a des chrétiens d'origine grecque et bientôt, il va y avoir des chrétiens d'origine païenne. Parce que les actes des apôtres aussi nous font part des premières conversions de païens. Alors il y a le cas de l'eunuque de la reine d'Éthiopie, qui lui est sans doute un païen converti au judaïsme, qui doit revenir de Jérusalem de pèlerinage, et qui est en train de lire Isaïe sur son char. Alors il doit y avoir une pause, le diacre Philippe lui demande s'il comprend ce qu'il lit, et l'eunuque, qui est un haut fonctionnaire, lui dit « Non, explique-moi ». Et la catéchèse est si rapide et fulgurante qu'il demande le baptême illico presto. Et il le baptise près de Gaza. Pierre, quant à lui, baptise un centurion romain à Césarée, sur la côte. Et puis, ils obtiennent des résultats en Transjordanie, donc au-delà du Jourdain, vers l'est, en Samarie, c'est-à-dire entre la Galilée au nord et la Judée au sud, en Galilée tout au nord, la Galilée des nations, et plus au nord encore, en Phénicie, à Damas, plus au nord encore, à Antioche, lieu de la principale église. Et c'est donc à Antioche que, pour la première fois, ils sont appelés Christianoi, c'est-à-dire chrétiens. Là, leur nom, ce nom leur est donné. Et Antioche va servir de base pour un certain nombre de déplacements missionnaires, à commencer de ceux de Pierre. Voilà, et à Antioche, il y a une communauté chrétienne double, avec ceux qui sont d'origine juive et ceux qui sont d'origine païenne, qui célèbrent en commun le repas eucharistique, qui est traversé aussi par des tensions, parce que par exemple, chez les chrétiens d'origine juive, les zélotes essaient toujours d'exercer une influence, et puis il y a des questions complexes à régler, par exemple, faut-il que les chrétiens d'origine païenne soient circoncis ? Voilà. Et l'aspect théologique, c'est tous les hommes sont-ils appelés à la foi, hein ? On voit bien qu'il y a un universalisme qui est en train d'exploser. Alors, à Antioche, la communauté va envoyer Paul. Je vais reparler de Paul dans un instant, mais on fait un petit saut dans le temps. Envoie Paul, Barnabé et Tite à Jérusalem poser la question de la circoncision aux apôtres. Alors, la réponse sera pas forcément peut-être complètement dans l'axe de la question. On va dire que Pierre a pour mission d'évangéliser les circoncis et Paul les incirconcis. Voilà. Donc à Antioche, il y a une communauté vivante, double, avec un certain nombre de questions sur la circoncision, sur la consommation des viandes d'animaux sacrifiées par les païens aussi. Voilà, avec des avis divergents. Jacques, par exemple, est partisan d'un judaïsme purifié et réformé, mais il reste assez accroché à la loi d'une certaine façon, tandis que Paul, lui, pense que le compromis est dépassé parce que le Christ a libéré les hommes de l'esclavage de la loi. J'aime bien voir la loi comme l'espèce de cocon dans lequel a grandi le peuple élu avant de le faire éclater pour s'épanouir en enfant de Dieu après la venue du Christ, si vous voulez. Vous voyez, la loi a eu son sens, son temps, mais maintenant il y a une loi qui vient englober absolument tout ce qu'elle avait porté et préparé jusque-là. Jacques, le deuxième Jacques, est lapidé en 62, et en 66 éclate donc la fameuse révolte juive contre le pouvoir romain qui va se terminer de façon absolument dramatique. Au moment de cette révolte juive, comme je l'avais dit la dernière fois, la communauté chrétienne quitte Jérusalem et se réfugie à Pella, dans la Décapole. En fait, c'est plus au nord, juste sur de l'autre côté du Jourdain. Et donc, c'est la fin de la première église de Jérusalem. Pendant ce temps, Les missions de Pierre continuent dans le nord de l'Asie mineure, dans le Pont, en Cappadoce, à Corinthe et à Rome. Hein, il est Képhas, il est le roc. Voilà. Et il y a un personnage auquel il faut faire une place à part, c'est donc Paul. Paul est un personnage tout à fait fascinant, ils le sont tous, mais celui-là peut-être encore plus. C'est donc un juif de Tarse, en Cilicie, hein, donc très au nord de Jérusalem. C'est un juif donc de la diaspora. Il est citoyen romain. Il a été élevé dans la plus pure tradition pharisienne en milieu hellénistique, au milieu de cette époque. Et il a été à l'école d'un grand maître qui s'appelait Gamaliel. Il a été un des agents principaux de la persécution des chrétiens, notamment on le voit au moment du martyre d'Étienne, et puis après, il est chargé d'aller traquer les chrétiens qu'on a signalés à Damas. Damas, c'est au nord-est de la Galilée, si vous voulez. Alors, je pense que vous avez tous une petite idée sur saint Paul. Mystique, théologien, thaumaturge, prophète. Et vous savez que sur son chemin de Damas, il est jeté littéralement à terre et aveuglé par le Christ qui l'interroge. Alors, c'est incroyable, il faut relire tous les actes en fait, parce qu'il y a un tel feu là-dedans. Alors, c'est un épisode extraordinaire. Et après, il l'envoie à Damas, chez quelqu'un qui doit l'accueillir, et la personne qui doit l'accueillir, je ne sais pas si vous imaginez la tête qu'elle fait. Je ne sais pas, enfin, il y a le type qui est là pour arrêter les chrétiens et les faire tuer, au fond, et on lui dit de l'accueillir parce que, voilà, là, il y a un acte de foi, je pense. Voilà. En tout cas, il respecte les colonnes de l'église Pierre et Jacques. Et vous savez que dans son évangélisation, il va se tourner systématiquement vers les Juifs quand il arrive, puis ensuite seulement vers les païens. Il emploie même certaines de leurs convictions et une partie de leur vocabulaire, ce qui ne va pas l'empêcher, malgré son audace, de connaître des échecs retentissants, comme celui qui lui arrive à Athènes, vous savez. Hein. Il arrive, il s'adapte à son auditoire. Athénien, je vois que vous êtes les plus religieux de tous les hommes, parce que dans votre ville, il y a des temples à absolument toutes les divinités. Il y en a même un dédié à un dieu inconnu. Eh bien, je vais vous le faire connaître. Et alors, vous savez, quand il se met à parler de résurrection, ils se lèvent tous et ils vont prendre l'apéritif. Ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas sérieux. Alors, il va être envoyé, il va faire des missions, des voyages, vous savez. Son premier voyage, alors vous trouvez des cartographies partout sur Internet, hein, le conduit à Chypre, puis dans toute l'Asie mineure, Pamphylie, Pisidie, sud de la Galatie, où il fonde 4 communautés. Il fera ensuite un deuxième voyage, il repasse par les mêmes villes. C'est-à-dire qu'il visite les communautés qu'il a fondées, il s'en occupe. Hein, c'est comme s'il avait plein de petits troupeaux, et il repasse voir ses bêtes, quoi, ses brebis. Et puis à Troas, il a une vision qui lui dit de passer en Europe, voilà, par le nord. Et il va aller à Philippe, Thessalonique, il va redescendre sur Athènes, Corinthe. À Corinthe, en 52, le proconsul romain Gallion refuse toute plainte des Juifs contre lui. Et puis il revient à Jérusalem et à Antioche. C'est l'époque où il y a le concile de Jérusalem, quand on l'a envoyé poser des questions là-bas. Il y a un troisième voyage. Il repasse encore en Asie mineure, il revisite ses communautés. Il va à Éphèse, puis il passe en Macédoine, là il est en Europe, il redescend à Corinthe, il remonte à Philippe, Troas et Jérusalem. Et donc à chaque fois, il consolide ses fondations. Et c'est pour ça qu'il écrit à toutes ces églises et qu'on a un certain nombre de ses épîtres, on ne les a pas toutes, hein, on le sait, parce qu'il s'occupe des communautés qu'il a fondées. Et c'est très intéressant parce qu'on voit Paul pasteur. Alors, il les engueule, il les encourage, et puis il se raconte un petit peu tous les dangers, toutes les épreuves qu'il a traversées. Il essaie de régler un certain nombre de querelles, hein, qui est à Pierre, qui est à Apollos, etc. Donc cette église, nous la voyons naître et se développer dans ces années 30, 40, 50, 60. Au début des années 60, il y a une crise qui va traverser et le judaïsme et le christianisme. Paul est revenu à Jérusalem fort de la fondation de 12 églises locales et il va être arrêté par les Romains. On l'accuse d'être fauteur de troubles. Et devant le Sanhédrin, il va d'ailleurs jouer habilement de la division entre sadducéens et pharisiens pour les regarder se disputer et pas trop s'occuper de lui. Les zélotes tentent de l'assassiner. Alors prudemment, le tribun romain le transfère à Césarée, sur la côte. Il reste en prison 2 ans. Et comme il s'impatiente, il y a quelques raisons, hein, il fait appel au tribunal de l'empereur à Rome. Il a le droit de le faire car il est citoyen romain. Voilà. Alors, il part en mer, c'est le 4e voyage, mais cette fois-ci, c'était pas une mission. Il fait naufrage à Malte, et il est en liberté surveillée à Rome. Et puis, il obtient un non-lieu, ce qu'on ne dit pas souvent, hein, mais voilà, l'affaire est réglée. Et sur ces entrefaites survient l'incendie de Rome en 64, dont j'ai parlé la dernière fois, qui va déclencher la terrible persécution des chrétiens romains sous Néron, à l'occasion de laquelle Pierre va périr dans le cirque du Vatican, et Paul sera sans doute arrêté après et décapité sur la voie romaine d'Ostie en 67. Donc sur les sites aujourd'hui de Saint-Pierre du Vatican, hein, tout en dessous il y a la tombe de Saint-Pierre, on l'a retrouvée à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis Saint-Paul hors les murs pour le tombeau de Saint-Paul. Alors, voilà une épreuve. Il y a les colonnes de l'Église, enfin, quels apôtres quand même, et notamment leurs chefs, qui disparaissent à ce moment-là. Dans le même temps, les Juifs connaissent la fameuse grande révolte contre les Romains. Ils chassent d'abord les troupes romaines de Jérusalem, mais en 70, Titus reprend Jérusalem, massacre la population et rase le temple. Et comme l'avait annoncer Jésus, ce qu'on a relu dans une lecture ces temps-ci, ne reste pas pierre sur pierre, on ne sait même pas comment c'était fait, ni où était le Saint des Saints. En 73, les derniers juifs qui résistaient dans une forteresse à Massada sont vaincus par les Romains, un certain nombre d'entre eux d'ailleurs se donnent la mort plutôt que de se retrouver dans leurs mains. Et donc on a une catastrophe dans le judaïsme qui est impensable, inconcevable. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de présence de Dieu au milieu de son peuple, il n'y a plus de sacrifice. Le judaïsme est mis par terre. Alors il va se reconstituer, se relever, mais en se reposant sur le judaïsme de la diaspora. Disparaissent dans cette guerre les sadducéens et les esséniens. Les pharisiens, eux, s'expatrient, puisque le culte sacrificiel et le temple n'existent plus. Et donc le judaïsme va se réorganiser à partir de ce moment-là, avec une réforme pharisienne, dont il vit toujours, hein, dans la continuité de laquelle il se situe toujours, et se replie sur lui-même.
Et aussi Titus et son fils ont massacré toute la population mâle de Jérusalem.
Oui, pas de quartier, rien.
Pas de quartier, donc en fait il n'y avait plus de juifs à Jérusalem, puisqu'ils étaient tous massacrés.
Et ça va se reproduire encore.
Ah, ça va se reproduire.
Oui. Avec plusieurs couches.
Après, si le judaïsme peut se perpétuer, c'est avec les juifs qui sont hors Jérusalem.
De la diaspora. Ouais. Et il peut y avoir toujours des gens qui se sont cachés et qui reviennent après, mais voilà. Alors, signe de ce repli, par exemple, eh bien, les juifs, à ce moment-là, vont rejeter la traduction des Septante, dont pourtant leurs pères sont l'auteur, pour rester directement dans le texte hébreu. Vous voyez ? Les chrétiens sont à ce moment-là complètement exclus des synagogues. Là, il n'est plus question de les tolérer, hein, comme Paul était venu dans telle synagogue parler. Hein. Et donc, c'est la réforme pharisienne dont j'ai parlé. Mais du côté des chrétiens, ce n'est pas plus glorieux. Hein. Les chrétiens connaissent également une crise grave, puisque les principaux chefs ont été martyrisés, des communautés ont été dispersées. Et puis, il y a des gens qu'on va appeler des judéo-chrétiens qui vont se déplacer vers l'Orient syrien, palestinien et arabe. Il y a des communautés, alors des communautés de langue araméenne qui vont partir par là-bas, qui vont fonder des églises. Hein. Et puis il y a des communautés un peu plus incontrôlables qui vont avoir une évolution clairement sectaire, mais j'en reparlerai. C'est l'époque où on met par écrit les textes, hein, comme on l'a vu la dernière fois. Et puis, il y a un étonnement qui traverse tout le monde, c'est que ces désastres n'aient pas entraîné la fin du monde et le retour du Seigneur. Parce que il s'est passé ce qui était impensable. Et donc, Si on se projette au tournant du 1er du 2e siècle, on peut dire qu'il y a trois groupes religieux qui sont sortis de la matrice juive. D'abord le judaïsme, tout simplement, constitué sur désormais la communauté pharisienne de la diaspora. Les communautés judéo-chrétiennes, dont l'une va revenir à Jérusalem, donc des chrétiens de langue araméenne, et puis les communautés chrétiennes fondées par Pierre, Paul, vers l'Asie mineure et vers l'Europe, autour de la Grèce et de Rome. Et donc, on a une naissance du christianisme à partir de la matrice juive qui a été assez tumultueuse, ne trouvez-vous pas? Et donc, ce christianisme est issu de l'espérance messianique juive, politique et religieuse, et d'une affirmation du Christ ressuscité en son corps, sans qu'il soit pour autant le roi libérateur d'Israël. Il y a eu différentes ruptures entre chrétiens et juifs. Le martyr d'Étienne, l'exécution de Jacques, la fuite de Pierre, le martyr de Jacques, l'autre frère, le frère du Seigneur en 62, les martyrs de Pierre et de Paul en 67, dans la mesure où certains pensent qu'il y a eu des dénonciations à Rome des chrétiens par les juifs. Vous pouvez lire ça dans la littérature. En tout cas, une mission auprès des païens a été enclenchée. On voit aussi qu'il y a des conflits entre judéo-chrétiens, si vous voulez, chrétiens issus du judaïsme, et pagano-chrétiens sur différents sujets. Voilà. Et le prosélytisme juif diminue et celui des chrétiens augmente. Et donc, c'est la première étape de la naissance de l'Église, qui s'est extraite de la matrice du judaïsme. Mais après, la naissance de l'Église, ça suppose aussi d'envisager ce qui s'est passé au IIe siècle. Et donc, on va regarder ici, c'est pas le tour du sujet, mais en particulier, comment ça s'est passé dans l'Empire romain, comment le christianisme s'est répandu dans l'Empire romain au IIe siècle et au début du IIIe. Quand même intéressant de savoir. Alors, on est à l'apogée de l'Empire romain à cette époque. On a la dynastie des Antonins, entre 96 et 192, puis la dynastie des Sévères, entre 193 et 325. C'est une période qui se caractérise par la paix, une certaine prospérité, et donc c'est un contexte qui semble plutôt favorable pour l'expansion du christianisme. Dans un contexte où, je vais essayer de vous l'expliquer, le paganisme est en pleine crise religieuse. Si on veut comprendre la naissance et la diffusion du christianisme, il faut voir ce qui se passe dans le paganisme, pour comprendre un ou deux mécanismes. Voilà. Et les chrétiens vont rencontrer un grand succès. Alors, quelle est la situation du paganisme, pour autant qu'on puisse en juger, dans l'Empire romain? D'abord, il y a la vieille religion romaine. Rome, c'est quand même un phénomène extraordinaire, c'est une cité qui s'est développée jusqu'à exercer une sorte d'empire sur le monde. Et Rome est une civilisation de la cité et du citoyen, dans laquelle on croit que les dieux ont fondé des institutions, où il y a des cultes domestiques, des cérémonies qui consolident chaque ville. Et d'ailleurs, Cicéron va considérer que les Romains sont le peuple le plus religieux de tous les peuples. Et donc Rome est parvenue, d'une certaine façon, à l'empire du monde. Quand on regarde certaines cartes de cette époque, il y a une carte qui s'appelle la carte de Peutinger, on voit Rome, centre du monde, et le monde romanisé. Et la terre est devenue une immense ville dédiée à une certaine joie de vivre, comme en témoignent les monuments des cités, les amphithéâtres, les cirques, les théâtres, les odéons, forums et autres termes. Rome développe son modèle d'art de vivre partout où elle se répand. Rome est éternelle. Rome répand la paix romaine autour du Mare Nostrum, autour de la Méditerranée. Et donc la religion romaine ancienne continue. Donc il y a le temple de Jupiter Capitolin, celui de Vesta, où les Vestales entretiennent le feu de la cité. L'empereur, quant à lui, a des fonctions religieuses, il est Pontifex Maximus, il est grand prêtre. Les magistrats sont membres des collèges sacerdotaux. Et on a une religion d'État où politique et croyance sont confondues. Pourtant, deuxième idée, cette religion romaine va être sapée dans son autorité, dans la conviction des uns et des autres, par ce qu'on appelle l'incroyance hellénistique. Donc on voit bien que ce sont des penseurs grecs qui ont introduit certains de ces éléments. Une faille s'ouvre entre la pratique religieuse et la croyance. Les dieux, décidément, sont bien extérieurs aux hommes. Et la piété de la religion romaine et du paganisme en général, c'est souvent rendre un culte aux dieux qui leur soit agréable, mais pour obtenir quelque chose d'eux. Hein, c'est le fameux « do ut des ». Je donne pour que tu donnes. Donc on a l'impression d'un marché, et puis d'un respect des rites, où il n'y a pas beaucoup d'âme, finalement. Hein. On recherche la paix des dieux, la pax deorum, par le respect du rituel. Et si on ne l'obtient pas, c'est qu'on a raté le rituel, alors on recommence. Vous voyez ? Donc tout cela est bien formel. Et puis il y a une sorte d'art de forcer la main aux dieux dans le do ut des. Voilà. Donc on respecte toujours, bien sûr, extérieurement, les formes religieuses, mais il semble qu'on y croit de moins en moins. Alors, il y a une sorte de vide qui s'ouvre, une sorte de faille, et il y a une troisième idée, donc. Les Romains vont procéder à quelque chose qui nous est assez familier, même si on ne met pas forcément un nom dessus, c'est l'interpretatio romana. Je pense que vous comprenez. C'est-à-dire que, d'abord, tout homme a le droit d'honorer ses dieux ancestraux, les dii patrii, les dieux des pères, les dieux des ancêtres. Hein. D'abord, Rome va respecter ça. C'est pour ça qu'on va retrouver des sanctuaires dédiés à toutes sortes de divinités à Rome, y compris venus de très très loin, d'Égypte ou de très loin à l'Est. Voilà, Mithra, entre autres, hein, Isis, voilà. Et on considère que c'est d'abord ça qui est important, c'est que chacun vénère les dieux de ses pères, et après, on va utiliser un procédé de romanisation artificielle de ces divinités. Et c'est ça l'interprétation romana. C'est Zeus Jupiter, si vous voulez, hein, pour reprendre simplement les choses. Et en fait, dans ce contexte, il n'y a que les chrétiens qui soient athées, parce qu'ils ont abandonné leur dieu d'origine pour en adorer un nouveau. Donc, dans la mentalité romaine, c'est très très important. Et puis, il n'empêche qu'il y a aussi beaucoup de choses plus incontrôlables, tout un paganisme vivant qui sacralise les forces de la nature, tellurique, sexuel, animal, etc., qu'on va retrouver dans nos campagnes, même très très tard, à la limite jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez. Hein? Voilà, pas de polémique. Alors, la religion est laissée au peuple par les élites romaines, qui n'en pensent, qui restent sur leur quant à soi. Quatrième idée, le culte impérial. Il y a une espèce de volonté de réaliser quelque chose en matière religieuse chez les Romains. Elle est là, la crise. Hein. Et donc, on va essayer d'élaborer un culte rassembleur et unificateur. Il y a une soif d'unité, vous voyez. Et alors, ça va être le culte impérial. Il est issu de la croyance des royaumes orientaux et hellénistiques, et il repose sur la persuasion intime que le roi, chef de guerre, est favorisé par les dieux qui lui donnent la victoire et il apporte la paix et la prospérité. Et donc la victoire, avec un grand V, hein, la victoire éternelle est attachée à l'empereur. Elle permet le début d'un âge d'or. Cette expression est très importante. Et donc la victoire, ça devient à la fois une divinité, hein, il y a un autel de la victoire, et la vertu du prince, la vertu de l'empereur. Elle est statufiée, elle est gravée sur les pièces de monnaie. Il y a donc une statue de la victoire à la curie romaine, avec un autel, un feu, de l'encens. Et donc, on va diviniser une abstraction, et ça va passer directement à la personne de l'empereur. Et à partir de César, même si César n'a pas été empereur, l'empereur est proclamé divus, si vous voulez le dire comme je l'ai appris, c'est-à-dire d'homme devenu dieu. Et désormais, il va y avoir un culte impérial civique. Et ce que je veux que vous sentiez, c'est cette volonté d'unification autour du culte impérial, vous voyez ? Et puis enfin, dernière donnée à prendre en compte avant de voir arriver les chrétiens dans tout ça, ce qu'on appelle la nouvelle religiosité païenne. Dans ce paganisme, on voit de plus en plus se manifester un souci d'être protégé par la providence des dieux, un désir de salut aussi. Et la phase d'incroyance hellénistique s'éteint progressivement au profit d'éléments qui viennent davantage de religions orientales. On désire atteindre une vérité, parfois le salut après la mort. Et donc, il y a un vocabulaire qui apparaît, celui des convertis, de l'initiation, de la connaissance. Alors, des cultes où il y a de l'initiation, il y en avait déjà bien avant, hein, si vous connaissez les mystères d'Éleusis près d'Athènes, par exemple. Il y a des cultes, par exemple, d'Isis et d'Osiris, le culte de Mithra. Le culte de Mithra est très intéressant parce qu'il est très populaire chez les militaires romains. Il repose sur la croyance en un sacrifice purificateur du taureau par Mithra qui apporte ainsi aux hommes le salut en fonction d'une pratique stricte des vertus morales. Donc ça convient assez bien aux militaires. Il y a telle ou telle basilique romaine qui a été édifiée sur un mitraïum. Hein, vous avez peut-être déjà visité ça. Voilà. Mais au milieu de tout ça, vous allez retrouver le judaïsme de la diaspora, et puis le christianisme naissant, et encore de l'astrologie, et même de la magie. En tout cas, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu neuf. On commence à croire davantage dans la société romaine, à l'immortalité de l'âme séparée du corps, et aussi en une divinité unique, porteuse de salut, en une initiation transformatrice. En fait, on a l'impression qu'il y a une attente étonnante dans le paganisme, on a l'impression qu'ils n'attendent que le christianisme. Vous voyez, pour que vous sentiez un petit peu quand le christianisme, quand les chrétiens ont commencé à parler, il y a beaucoup de gens, beaucoup de païens qui vont être sensibles à ce qui est raconté, parce que ça correspond à leurs aspirations les plus profondes. Alors évidemment, c'est impossible à mesurer. On ne peut le voir que dans les écrits de tel ou tel auteur de l'Antiquité, mais il y a quelque chose de cela, très clairement. Alors le christianisme va donc se répandre dans l'Empire romain à partir de sa base. On a déjà parlé de Pierre et de Paul. Et donc, on va voir apparaître de nouvelles églises, de nouvelles communautés. Il n'y a pas d'organisation systématique de l'évangélisation. Elle passe par tous ceux qui sont intermédiaires, si vous voulez, des marins, des marchands, des esclaves, des soldats. Ça se passe beaucoup dans les villes, avec la création de communautés urbaines, à partir de Césarée, d'Antioche, de Corinthe, et à la fin du IIe siècle, presque toutes les villes grecques connaissent les chrétiens. En Asie mineure, en Bithynie, la Bithynie, c'est une région sur la rive sud de la mer Noire. Hein, je pense que les Arméniens sont très lointains héritiers de cela, hein, de ces premières communautés. Mais vous avez aussi des chrétiens sur l'Euphrate, avec le royaume d'Édesse, avec le roi Abgar, ABGAR 9, qui a régné entre 179 et 186, qui reçoit le baptême. Vous en avez sur le Tigre, et donc en Grèce et dans l'Occident, ça on le sait bien. Et il y en a jusque chez nous, hein, en Gaule, des missionnaires venus d'Asie mineure arrivent à Vienne, à Lyon. Alors Lyon, par exemple, voit arriver Irénée, qui est un grec venu de Smyrne. Il a été formé par Polycarpe de Smyrne, lequel a été formé par Saint Jean. Et donc, avec Irénée, à Lyon, on a la succession apostolique directe, en trois étapes. Intéressant à savoir. En Afrique du Nord, on a des communautés de langue latine extrêmement importantes. Et donc, on a des minorités chrétiennes, essentiellement urbaines, sur le pourtour méditerranéen et un peu au-delà, qui s'expriment en trois langues, en grec, en latin et en syro-araméen, ce qui deviendra plus tard le syriaque. Hein, il n'y a pas que deux, il y a trois, hein, trois rameaux à cette époque. Et puis en Égypte, par exemple, on voit assez tôt apparaître l'écriture copte chez les chrétiens d'Égypte. Copte, ça veut dire égyptien en grec, en fait. Hein. Quelles sont les méthodes d'évangélisation? Eh bien, les premiers touchés semblent être les esclaves et les affranchis. Mais ça remonte jusqu'à l'entourage impérial. Par exemple, une concubine de l'empereur Commode, qui s'appelait Marcia, est qualifiée de Philothéa, et on veut reconnaître dans cette épithète son appartenance chrétienne. En tout cas, les milieux sénatoriaux méprisent complètement ce qu'ils considèrent comme des fariboles. Marc Aurèle, par exemple, l'a écrit. Et pourtant, on voit en face apparaître des écrivains chrétiens dès le IIe siècle, ceux que l'on appelle les apologistes, comme Saint Justin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains milieux intellectuels sont touchés aussi. Et très souvent, l'enseignement chrétien est fait de manière ouverte, on ne se cache pas du tout. Et à la fin du IIe siècle, on sait même que l'enseignement des vérités de la foi se fait par étapes avant de recevoir le baptême. On connaît bien ça, hein. Alors les païens sont étonnés, indifférents ou révoltés, comme c'est le cas de Sels, dont je reparlerai. Révoltés hein, par le succès du christianisme dans toutes les couches sociales, sans aucune clandestinité. Alors, quelle est l'attitude de l'État romain face à ces chrétiens? Dans l'opinion, ici ou là, on sent bien qu'il y a de l'hostilité. Les empereurs, que font-ils, eux? Les empereurs Antonin semblent embarrassés. Vous vous souvenez, on avait lu une correspondance entre Trajan et Pline le Jeune, hein, qui avait fait torturer des diaconesses en Bithynie, justement, pour savoir ce que c'était que ces chrétiens, et il n'y avait trouvé qu'une forme de superstition déraisonnable, avait-il dit. Et puis, voilà, donc, ils sont assez indifférents, mais il y a des problèmes plus vastes auxquels on ne pense pas tout de suite. Par exemple, plus il y a de chrétiens, moins on achète de viande des animaux sacrifiés. Donc, ils posent des problèmes économiques. Alors, que dit l'empereur Trajan? On n'avait pas lu la réponse. Trajan dit qu'il ne faut point les rechercher. Ce n'est pas la peine de faire du zèle. Mais seuls ceux qui seront dénoncés, donc la dénonciation est possible, hein, et convaincus de christianisme et qui n'auront pas sacrifié, on a vu pourquoi maintenant sacrifier à l'empereur, hein, seront condamnés, tandis que les autres seront pardonnés. L'empereur Adrien, lui, dit que, les feuilles de cours, les habitants de la province doivent faire une pétition et prouver que les chrétiens agissent contrairement aux lois. Donc une forme de dénonciation, la pétition. Et donc seul existe un délit contre l'ordre public. Autrement dit, le christianisme est considéré comme un délit, mais la paix publique importe davantage. D'ailleurs, les juges ont des consignes. Ils doivent s'efforcer de faire abjurer l'accusé afin d'éviter que le sang coule. Donc, on voit dans les actes de tel ou tel martyr, hein, il y a ça en Pléiade, hein, les écrits des premiers chrétiens, il y a beaucoup de textes dans un volume sorti il y a 2 ans. Les juges supplient les chrétiens d'abjurer, s'il vous plaît, ne nous obligez pas à vous tuer, quoi. Mais cette jurisprudence de la dénonciation, c'est une épée de Damoclès. Hein. Il y a une menace permanente et imprévisible qui pèse sur les chrétiens. Pourtant, ils sont très respectueux envers l'État romain. Hein. Ils rendent bien à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. Et ils prient pour les autorités publiques. Alors les formes de persécution qui vont avoir lieu sont surtout des persécutions populaires et sporadiques. Elles surviennent quand les gouverneurs acceptent les dénonciations. C'est ainsi que Ignace d'Antioche, au début du IIe siècle, va être transféré d'Antioche à Rome pour être livré aux lions dans le Colisée sous Trajan. On a des lettres qui sont tout à fait étonnantes et que vous pouvez lire. Hein. Il ne veut surtout pas qu'on essaie de le sauver et il veut être le froment sous la dent des lions, etc. Et puis, il y a un certain nombre de martyrs sous Adrien et Antonin le Pieux, comme ça, plusieurs papes, Télesphore, Hygin, puis Alexandre et ses compagnons. Hein. Certains sont cités dans le canon romain. Et puis, à partir de Marc Aurèle, on recherche des boucs émissaires, c'est paradoxal, parce que l'expression vient du judaïsme, parce que l'Empire connaît quelques troubles avec des invasions, et puis la peste. Et donc, Rusticus, en 165, Rusticus, c'est le préfet de Rome, c'est un des personnages les plus importants de l'Empire, condamne à mort l'apologiste Justin. Voilà. En Orient, plusieurs évêques sont condamnés à ce moment-là. Publius d'Athènes, Sagaris de Laodicée, Thrasaeus de Ménie ou Polycarpe de Smyrne, qui est brûlé vif le 13 février 166. Je cite les noms pour que vous les ayez entendus une fois. À Lyon, une manifestation populaire est à l'origine des martyrs du 1er août 177, qui voit mourir Sainte Blandine. Et en Afrique, sous Commode, il y a également des martyrs. Voilà, donc sur dénonciation. Et puis, en 202, l'empereur Septime Sévère, qui pourtant a des épouses ouvertes aux cultes orientaux, enfin les épouses des empereurs de cette dynastie, passe en Palestine et il est très inquiété par des mouvements messianiques qui agitent le pays. Et alors il va promulguer en 202 un édit interdisant le prosélytisme juif et chrétien. Et donc, c'est la première fois que l'État romain promulgue une loi contre les chrétiens. Il s'agit précisément d'empêcher la diffusion de leurs croyances et de refuser de toute façon de leur accorder un statut juridique. Et donc, les persécutions vont concerner les néophytes, les catéchumènes et les catéchistes. Le catéchiste, à l'époque, c'est risquer sa peau. Le but, c'est donc d'empêcher les conversions, d'empêcher le prosélytisme. Alors, à Carthage, comme ça, le peuple s'emballe, il détruit les sépultures chrétiennes, et c'est là qu'un catéchiste qui s'appelle Saturus, une néophyte qui s'appelle Perpétue, qui est une jeune maman, et son esclave qui s'appelle Félicité, qui elle est enceinte, et cinq compagnons sont martyrisés dans des jeux en l'honneur de l'empereur Geta le 7 mars 203. Et voilà Perpétue et Félicité. Alors, vous voyez un petit peu aussi comme le christianisme cadre les cadres sociaux, hein, la maîtresse et l'esclave par exemple. Puis il y a d'autres martyrs, mais cette fois-ci selon la procédure antérieure de dénonciation, c'est ce qui est arrivé à Irénée de Lyon. Puis, après Septime Sévère, les cas se raréfient, et c'est le début d'une certaine paix de l'Église, jusqu'au milieu du IIIe siècle. Alors au total, le christianisme est perçu comme une superstition dangereuse, absurde et déraisonnable, mais on laisse la paix aux chrétiens, à condition d'obéir à l'empereur. Pendant ce temps-là, en Palestine, une nouvelle révolte juive éclate en 112-115, et puis également dans la diaspora, à Chypre, en Syrie, en Palestine, en Égypte, en Cyrénaïque, les Juifs commettent des atrocités et la répression opérée par Trajan est terrible. Il y a encore une révolte en 135 qui finit à nouveau par un massacre général. Et Jérusalem est rasée, reconstruite par Adrien et nommée Aelia Capitolina. La population est encore dispersée et la Palestine va recevoir une population nouvelle de Grecs orientaux. Et donc cette fois-ci, la diaspora est définitive. En 155, il y a un dernier sursaut. Et quand les Juifs se sont calmés, ils retrouvent leur statut de religion licita. Pourquoi est-ce qu'on les tolère? Parce qu'ils pratiquent le mos maiorum, ils vénèrent les dieux de leur père. Donc c'est à ce titre qu'on les tolère, et qu'il y a l'exception de ne pas rendre un culte à l'empereur. Mais alors les chrétiens, ça ne va pas. Alors, plus à l'est, on a dit qu'il y avait des groupes judéo-chrétiens qui étaient partis. Alors certains sont restés chrétiens, hein, avec des églises chrétiennes de langue syro-araméenne. Des groupes qui deviennent complètement sectaires et qui s'isolent de la grande église et qui finissent donc par former des sectes. La première semble être celle des ébionites, les pauvres, qui sont connus par certains textes et qui reconnaissent en Jésus un messie et un prophète, mais pas forcément le fils de Dieu. Alors il y en a beaucoup en Transjordanie par exemple. Voilà, donc on a un certain nombre de groupes d'ailleurs qui vont influencer plus à l'est quelqu'un comme le prophète Mani au 3e siècle, hein. Vous savez qu'il y a une figure tout à fait particulière, un personnage qui se présente comme celui qui vient achever un mouvement qui était passé par Zoroastre, Bouddha et Jésus et qui a écrit et qui est mort en captivité. C'est Mani, hein, qui dont le nom est resté parce que derrière sa pensée il y a un dualisme, hein. La matière, l'esprit, et l'idée que, ce que j'ai dit dans la gnose la dernière fois, hein, l'idée que des parcelles spirituelles sont tombées prisonnières d'enveloppes charnelles et que le but de la vie, c'est de s'en libérer et de retrouver son état spirituel primitif, et c'est ce que venu montrer Jésus pour eux. Voilà. Et ce que reprendront les cathares, mais j'en parlerai dans quelques temps. Alors, voilà, ce qui est intéressant, c'est que ces personnages... Certains qui ont pu écouter Olaf ici savent que on pense que c'est le chaînon manquant et que ça va être la matrice du proto-islam. Voilà. Je le dis, on en reparlera peut-être si vous voulez. Sur le deuxième siècle, que peut-on dire ? J'ai dit que le deuxième siècle était un siècle de paix, de bonheur, parce que c'est important pour les Romains, mais aussi de recherche religieuse, très importante. Et dans ce foisonnement religieux, le christianisme s'est glissé. Les martyrs du deuxième siècle ont eu un effet contraire au but attendu, puisque finalement, plus on martyrise les chrétiens, plus il y en a. Les conversions se multiplient. Comme le dit Tertullien, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Et donc le contraste est fort entre le comportement non violent des chrétiens devant les persécutions et les révoltes juives, là, qui en veulent, hein. Ça va accentuer encore, s'il le fallait, l'originalité du phénomène chrétien dans la société romaine antique. Alors, je voudrais faire, pour finir, quelques remarques sur les causes du succès du christianisme. A priori, c'était pas fait pour durer, parce que le message d'abord est incroyable. Un homme qui était mort, qui redevient vivant, et qui vient apporter le salut à toute l'humanité, et qui se proclame d'ascendance divine. Des persécutions qui auraient dû régler le problème. Et pourtant, il y a la situation que nous connaissons. Alors, quel est le crime des chrétiens, redisons-le? C'est d'abord le crime de nouveauté. Hein, ils ne suivent pas le mos maiorum, le culte de leur père. Ils sont impies. Ils sont athées même, puisqu'on a l'impression qu'ils n'ont aucun dieu. Ils s'en sont donné un et puis c'est tout. Et ils refusent de sacrifier à l'empereur. Ils remettent donc en cause la Pax Deorum, la paix des dieux. Puisqu'ils, si on ne rend pas aux dieux le culte qui leur est dû, ils ne vont pas donner la paix qu'on doit avoir en échange. Donc ils représentent un danger public. C'est dans ce sens-là. En plus, ils refusent d'assister aux cérémonies païennes, aux spectacles du théâtre, parce que les mythes païens sont mis en scène, aux jeux, parce qu'il y a une participation du public au meurtre des athlètes. Et puis, ils refusent les sacerdoces municipaux, ils évitent l'armée. C'est pour ça qu'on dit qu'ils aiment personne et ils sont remplis d'une haine du genre humain. On retrouve l'expression. Et puis, on en fait des boucs émissaires. Et comme à chaque fois qu'on constate ça dans une société, il y a tous les travaux de René Girard, eh bien, on diffuse des calomnies sur leur compte. Ils se livreraient à des actes abominables. Ils adoreraient une tête d'âne. Il y a même un graffiti où on voit un crucifié avec une tête d'âne, avec un tel qui adore son dieu. Ils commettraient des meurtres d'enfants, de l'anthropophagie. On voit bien comment on détourne l'Eucharistie ici, etc. Des orgies incestueuses, puisque tant qu'à faire, autant prêter aux autres ce qu'on pratique soi-même. En tout cas, ils servent de bouc émissaire, dont la mort permet de résoudre temporairement les tensions internes de la société romaine. Et donc, quelque part, les martyrs prennent le relais des sacrifices humains. Pourtant, la paix obtenue par le sang des chrétiens ne dure pas. À la limite, ça en fait davantage. Alors, que font les chrétiens plus positivement? Ils ruinent les mythes. Les mythes gréco-romains. Ils montrent qu'en fait, les mythes ne sont que des histoires de meurtre. Si vous voulez le résumer en une phrase, ils montrent que les dieux ont soif. La seule façon d'obtenir la paix des dieux, c'est finalement de tuer quelqu'un. Même tuer l'empereur, hein, et ça va beaucoup se produire au IIIe siècle. Il y a une période qui s'appelle l'anarchie militaire qui dure 50 ans. Impossible de suivre les choses tellement c'est compliqué. Hein. Si vous regardez les récits mythiques, c'est rempli de meurtres, de crimes, de Cronos qui dévore ses enfants, d'Apollon qui séduit des femmes et qui tue tout le monde, enfin c'est affreux. Voilà, donc il démasque la soif de sang des dieux. Et puis ils vident les rituels de leur sens parce qu'ils montrent que la religion romaine, c'est du vent. C'est du vent, il suffit qu'il y ait un chrétien à côté d'un lieu de sacrifice païen pour que ça marche pas. Alors c'est pas terrible comme religion, hein. Et on voit bien que c'est les rituels qui comptent. Alors il y a des choses qui scandalisent encore plus les païens chez les chrétiens, enfin chez certains païens, c'est la conception du sexe, du corps, du mariage. Hein. Là où les païens souvent considèrent le corps comme une guenille, hein, ils considèrent la femme comme une simple matrone qui est dévorée par la hâte de ses désirs. On trouve ça chez Galien, hein, l'auteur, le médecin, hein, eh bien, vous avez des chrétiens qui vont non pas diviniser le sexe, mais qui vont vous montrer que le salut se fait sur un mode nuptial, avec l'époux et l'épouse, sur l'autel au repas des noces et sur l'autel de la croix. Voilà, et donc on va donner une nouvelle conception du corps, le christianisme et la religion de l'incarnation, et ça, ça va heurter aussi beaucoup de gens. Alors la résurrection, n'en parlons même pas. Voilà. Et en plus, ça n'empêche que on peut être porteur de la virginité dans le christianisme. Et donc on va aussi donner une version positive en présentant cette consécration pour le royaume, hein, comme un phénomène tout à fait précieux et insupportable. Et vous avez remarqué que souvent, même en France, hein, sous la Révolution, à chaque fois qu'on persécute l'Église, une des premières choses qu'on essaie de faire, c'est de marier des prêtres et des religieuses. Et on a fait ça sous la Révolution. C'est pas anodin, hein, je ne crois pas que ce soit anodin. Alors en face, les chrétiens ont donc eu les apologistes, Justin, Tertullien, et puis des textes comme l'Épître à Diognète. Et on montre que dedans que les chrétiens sont dans le monde, mais sans en être. Et puis, ça montre aussi que le christianisme est capable de se couler dans le moule grec, capable de s'héléniser. C'est pas une opposition bord à bord, vous voyez. Et donc, par exemple, qu'il n'y a pas de contradiction entre la pensée philosophique et leur foi. On a vu que le grand combat des chrétiens, hein, au niveau intellectuel, à ce moment-là, c'est le combat de la gnose. Hein, on a donc l'apparition d'une orthodoxie face à une hérésie, ce qui va aussi susciter l'apparition d'une autorité, puisqu'il y a besoin d'authentifier la vérité. Et alors, on va voir de grandes figures, Polycarpe, Irénée, et puis les papes, Pie, Anicet, Sauter, Éleuther, Victor, premier pape latin. Et donc se pose aussi le problème de la tradition, tout de suite. Hein. Et donc, très vite, on va dire que première, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération de chrétiens, on va dire très tôt que écriture et tradition ne font qu'un en réalité, et que la seconde, en fait, n'est que l'explicitation de la première. On voit apparaître enfin la philosophie chrétienne et la théologie. Et je voudrais, pour finir, mettre en avant une figure dont j'ai cité le nom à plusieurs reprises, c'est Irénée de Lyon, qui a vécu entre 130-140 pour sa naissance et vers 203 pour sa mort. Il est donc sans doute né à Smyrne, en Asie mineure. Il a connu Polycarpe, qui a connu Jean, comme je l'ai dit. Donc il a connu un témoin des apôtres. Il y a un lien, il y a une tradition orale. Et il peut dire, comme plus tard dira saint Augustin, « Nous croyons en celui en qui ils ont cru. » Vous voyez ? Et donc Irénée est prêtre à Lyon, évêque. Son œuvre est écrite en grec. Et il ne reste que la traduction latine de son traité contre les hérésies. Et sa démonstration de la prédication apostolique, il a eu à lutter contre les gnostiques, et il affirme dès le départ qu'une histoire du salut est annoncée par les Écritures, une histoire du salut, initiée par Dieu et parachevée par Jésus. La création par Dieu d'un homme véritable, qui est chair, et non pas apparence comme pour certains gnostiques. La chair étant l'image substantielle de Dieu, visible dans la chair glorieuse de Jésus. Et elle est élevée à Dieu progressivement par la contemplation. Voilà. Et donc, il parle de la divinisation de l'homme malgré le péché d'Adam, grâce à la rédemption. Et c'est la fameuse citation « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu, c'est de voir Dieu. » Donc, on a une vision optimiste du salut et de la chair par le Christ. Alors, derrière, il y a évidemment une influence johannique. Et puis, il y a tout un exposé contre les hérésies, un exposé général de la foi, marqué par une unité profonde. Il n'y a qu'un seul et unique dessein de Dieu, le salut de l'homme dans toutes ses composantes, récapitulé dans la personne du Christ. Et on a donc, dans son traité, une œuvre, qui est une des plus grandes synthèses théologiques avant les pères de l'Église du IVe siècle. Et on a un contact étroit avec les origines chrétiennes. Et donc, on a aussi quelque chose de fondateur. Voilà. On a donc une époque de grande ferveur évangélisatrice. Il y a une nouveauté chrétienne. Les chrétiens sont certes accusés de toutes sortes de choses, mais la vision dualiste de la gnose très dangereuse pour les chrétiens par ailleurs que les élucubrations de l'Empire romain, est prise en compte et elle est affrontée et elle est vaincue. Et donc le christianisme est en train de proposer ouvertement une alternative au paganisme en définissant son orthodoxie face aux hérésies. Voyez, l'autorité de l'évêque de Rome s'affirme, la théologie prend son essor en faisant appel aux sources de la révélation. Alors, les philosophes stoïciens et platoniciens sentent ce bouleversement intérieur. Sénèque recommandait un mariage d'amitié, non point de passion, donc une conception assez étriquée de l'amour par rapport à celle qu'on peut évoquer dans les noces du Christ et de l'Église. Plutarque, lui, écrit que le grand Pan est mort. Enfin, un mauvais jeu de mots, comme Michel Rouche à qui j'ai repris tout ça, c'est la panique. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la mort du paganisme ? Bah, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. En tout cas, pour reprendre les termes de l'introduction, est-ce que l'Église est une secte qui a réussi ? Alors, si on considère le mot secte dans son sens de petit groupe fermé, l'Église n'est pas une secte, puisque justement, elle est complètement ouverte, comme l'est le côté du Christ, elle est ouverte sur Jérusalem, elle est ouverte sur les Juifs de la diaspora, elle est ouverte sur les païens, elle est ouverte sur le bassin méditerranéen. Donc géographiquement, elle est ouverte. Mais sur le fond, hein, sur la rencontre de la pensée païenne et l'annonce d'une bonne nouvelle à un paganisme qui était en train de sombrer dans l'inquiétude et le désespoir, cette ouverture est absolument manifeste. Et malgré les persécutions, malgré tout ce que j'ai pu vous dire des martyrs des premiers siècles, elle connaît son essor. Et donc, c'est tout sauf une secte. Voilà. Et elle a réussi, oui, mais ce n'est pas une réussite humaine, croyons-nous. C'est une réussite parce qu'elle est portée par l'Esprit-Saint.